Monsieur Hubert Marie Djamani, bonjour.
Bonjour.
Ancien journaliste centrafricain, quelle différence faites-vous de la pratique du journalisme d'autrefois et celle d'aujourd'hui ?
Écoutez, c'est comme le jour et la nuit. Pourquoi je le dis ? Parce que, vous savez, l'ancienne époque, c'était au moment où la République centrafricaine était sous le régime du parti unique. Et dans un régime de parti unique, la dictature s'est installée. Et à ce moment-là, les journalistes n'avaient donc pas les mains libres. Donc, c'était difficile de dire ce qu'on pense et c'était une période assez sombre de l'histoire de notre pays. Aujourd'hui, nous sommes en démocratie. Il y a une certaine liberté, mais le journaliste, dans ce contexte de démocratie, doit savoir dire ce qu'il pense, mais se garder aussi de dire n'importe quoi.
De nos jours, la profession a beaucoup évolué avec l'apparition de nouveaux médias, à l'exemple de la presse en ligne. Que vous inspire cette évolution ?
Cette évolution est un signe des temps. Aujourd'hui, évidemment, à l'ère de nouvelles technologies, on peut faire beaucoup de choses. Mais attention, il faut placer des garde-fous. Cette évolution amène aussi beaucoup de travers. Et ces travers font que parfois, on assiste à des dérapages. La presse en ligne a ouvert le champ aux non-journalistes. Et quand on n'est pas journaliste, on ne vérifie pas les informations, on ne contrôle pas. Bien évidemment, dans ces conditions-là, on entend, on voit, on lit des choses qui dépassent parfois l'entendement. Et c'est cette situation qui fait qu'il faut véritablement mettre en place un cadre juridique, pour essayer de contenir les abus. Et évidemment, ça touche aussi à l'intimité de l'homme. Malheureusement, c'est difficile de tout contrôler parce que ceux qui écrivent parfois ne sont pas dans le même pays. Ceux qui écrivent sont à l'autre bout de la planète. Et comme nous sommes dans une planète mondialisée, c'est difficile de contrôler et de sanctionner parfois ceux qui commettent des fautes.
Justement, le grand défi auquel nous faisons face aujourd'hui, c'est la montée de la désinformation, particulièrement à travers les réseaux sociaux. Êtes-vous préoccupé de cette nouvelle donne ?
Oui, je suis d'autant plus préoccupé que tout cela est orchestré, organisé. Quand je dis organisé, c'est parce que ceux qui diffusent des fausses informations le savent très bien. Ils le font à dessein. Ils veulent créer la confusion dans l'esprit des lecteurs, de la population. Et malheureusement, cela tend à se développer. Et là aussi, comme je le disais tout à l'heure, c'est difficile de contrôler cela. Parce qu'on a beau prendre des sanctions, on a beau prendre des lois pour contenir cette désinformation, c'est difficile. Souvent, ce sont des réseaux qui se plaisent à diffuser des fausses informations dans le but de saper le moral des gens, dans le but de nuire, d'inciter à la haine, d'inciter à la vengeance. Et malheureusement, lorsque ça se passe dans un pays, on nuit à la population. Et aujourd'hui, comme vous le savez, je ne vous l'apprends pas, nous sommes dans un contexte de guerre informationnelle et à travers la désinformation. Aujourd'hui, il y a des pays, il y a des gens qui se sont bien organisés pour créer des logiciels, pour inciter, pour désinformer. Et c'est difficile aujourd'hui de discerner le vrai du faux. Il y a des efforts qui sont faits justement pour arriver à décrypter toutes ces fausses informations. Mais il faut que l'esprit également soit préparé pour comprendre cela.
Mais face à cette situation, que fait concrètement le HCC ?
Le HCC fait certaines choses. On ne peut pas baisser la garde. Mais vous savez, comme je vous le disais tout à l'heure, lorsque l'auteur ou les auteurs se trouvent à l'étranger et non sur le territoire centrafricain, c'est difficile. Mais le HCC, à travers nos correspondants, nous arrivons d'abord à faire de la pédagogie. Et cette pédagogie permet d'amener les journalistes, d'amener les gens. Parce que ce n'est pas toujours les journalistes qui font de la désinformation. Ce sont des gens mal intentionnés.
Parfois, ceux qui se prennent pour des journalistes aujourd'hui,
voilà,
qui écrivent en ligne.
Qui écrivent en ligne et qui se permettent de poster parfois des vidéos qui n'ont pas de raison d'être. Et cela, évidemment, comme je dis, nous faisons d'abord de la pédagogie. Mais nous n'avons pas les moyens de contrôle des sanctions que nous pouvons prendre. Donc, il revient aussi.
C'est pas envisagé ?
C'est envisagé, on y pense. On peut s'adresser à certaines cellules qui ont des moyens qui couvrent, si vous voulez, une bonne partie de la planète, surtout l'espace francophone, pour essayer d'amener les auteurs à des sanctions. Mais c'est pas facile parce que le numérique a ouvert la porte un peu, je dis pas à l'anarchie, mais à une diffusion peu contrôlée.
De nombreux journalistes centrafricains se plaignent aujourd'hui du difficile accès aux sources d'informations. Quelle était la réalité lorsque vous exerciez encore sur le terrain ?
L'ancienne époque, c'était le parti unique, c'était le dictateur qui faisait tout. Et à cette époque-là, l'accès à l'information était pratiquement impossible. Je vous prends un cas. Dans la salle de rédaction de notre radio nationale, à l'époque, il n'y avait que la radio nationale, sous la période du président Bokassa, Radio Centrafrique. Et à l'entrée de la salle de rédaction, il y avait un tableau sur lequel on avait inscrit toutes les informations à ne pas diffuser. Il y avait les grèves, il ne fallait pas en parler, les assassinats, surtout des chefs d'État, il ne fallait pas en parler. En tout cas, il ne fallait rien dire de ce qui pouvait mettre les autorités en colère. À l'époque, on pouvait dire un certain nombre de choses, mais on ne pouvait pas dire du mal du chef de l'État, tout en se gardant d'aller au-delà du commentaire. Il s'en tient aux faits et c'est ce qui est important.
Pour vous, hein, est-ce qu'un journaliste centrafricain peut vivre aujourd'hui de sa profession, vu le contexte social actuel?
Bon, le journaliste centrafricain vivre de sa profession, je ne crois pas. Je ne crois pas et cela est dû au fait que le métier n'est pas souvent pris en considération. Ici, je suis dans votre studio, je vois de beaux micros. Ce n'est pas toutes les radios qui ont de beaux micros comme ça, de beaux studios. Il faut que le journaliste vive dans des conditions requises, qu'il soit capable d'innover, qu'il soit capable de créer. Tant qu'il n'a pas les conditions requises, mais il lui est difficile de créer, de concevoir des contenus qui puissent plaire au public. Et je crois que c'est un combat que chacun de nous, chaque journaliste doit mener. Prendre d'abord conscience de son état, de sa place au sein de la société, du respect qu'on doit lui accorder. Et ici, chez nous, le problème se situe à ce niveau-là. Parce que le journalisme est un métier noble et il appartient aux autorités de lui donner la force de pouvoir exercer ce métier dans les conditions requises et que l'on retrouve un peu partout dans le monde. Évidemment, un journaliste centrafricain ne peut pas avoir le même traitement que le journaliste français ou que le journaliste américain, mais il doit avoir le minimum pour pouvoir exercer ce métier dans les conditions et on peut alors à ce moment-là lui demander de faire son travail comme il faut.
L'ONG Human Rights Watch a dénoncé dans un rapport datant du mois d'avril dernier le rétrécissement de l'espace civique. Selon l'organisation internationale, certains médias sont empêchés d'exercer librement en raison des pressions politiques. Pensez-vous qu'un pareil environnement peut favoriser le droit à l'information du citoyen?
Vous savez, le droit du citoyen à l'information est un droit inaliénable, c'est vrai. Mais une ONG comme Human Rights Watch a le droit d'écrire. Il n'est pas dit que tout ce qui est écrit est une vérité. Il y a des vérités, mais il y a aussi des choses que Human Rights Watch ignore. Je ne sais pas, ça c'est le point de vue de Human Rights Watch et le gouvernement a le droit de contester ce rapport et de sortir le sien et de dire non.
En tant qu'un doyen de la presse centrafricaine, avez-vous une expérience professionnelle à nous partager?
Je me souviens d'une situation que j'avais vécue, disons deux situations. La première fois où je suis allé en prison, c'était lorsque j'avais annoncé la mort du président Pompidou. J'ai passé une semaine en Garagba, tout simplement. Il est décédé en 1972. En tant que journaliste, j'étais ce jour-là d'antenne. J'ai donné l'information. À la fin, on m'a pris, on m'a envoyé en prison. Mais bon, le fait d'aller en prison, le président Bokassa voulait annoncer l'information lui-même parce qu'il avait beaucoup d'empathie pour le président Pompidou, qu'il considérait comme son père et tout. La deuxième cas que j'ai vécu, c'était lorsque j'avais couvert le congrès des travailleurs à l'époque. Il y avait des résolutions qui étaient vraiment avant-gardistes. J'ai mis le paquet dessus, on a parlé du début de la démocratie et tout. Et il a mal pris cela. Et là, je suis allé en prison pour 18 mois. Mais je n'ai pas été tué. Donc, je vous en parle comme ça, mais c'était difficile.
Ok, ben, plusieurs jeunes centrafricains s'intéressent aujourd'hui au métier de journaliste. Que leur conseillerez-vous pour une carrière réussie?
Ce que je conseillerais, c'est qu'ils travaillent beaucoup. C'est un métier noble, c'est un beau métier, mais il faut beaucoup travailler en respectant toujours la déontologie, en lisant beaucoup. Le journaliste, c'est celui qui lit beaucoup, qui s'informe, qui cherche à savoir. Je crois que c'est par ce biais qu'on peut réussir correctement.
Monsieur Hubert Marie Djamani, merci.
Moi aussi, je vous remercie.